Alors je remercie les plus jeunes qui apportent maintenant des messages d'exhortation, en fait, en introduction du culte. Et demandons la grâce au Seigneur, eh bien, qu'il puisse encore progresser et apporter aussi les messages, tout simplement, par la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, bénis encore ce moment, bénis ta parole, qu'elle nous instruise, qu'elle pénètre en nos cœurs, Seigneur, notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas très très loin, en fait, du thème, bien qu'apparemment, il n'est pas directement lié, mais vous allez voir qu'il y a quand même des rapprochements à faire. Alors je vais vous citer deux, trois proverbes qui me sont venus à l'esprit après la méditation de ce message. Enfin, c'est des proverbes personnels. Hein. C'est « Si le cèdre grandit, qui l'en empêchera ? Si le cèdre est trop haut, qui le protégera ?» Deuxième proverbe, mieux vaut être un petit cèdre dans le jardin de Dieu qu'un magnifique spécimen hors de son jardin. Et puis, mieux vaut être une planche de cèdre que d'avoir de la passion pour elle. Vous allez retrouver dans les passages. La raison du message, c'est que Dieu a besoin de nouveaux cèdres pour sa maison et dans sa maison. De quelle espèce est le cèdre de l'Ain ? Ça vous dit quelque chose, le cèdre de l'Ain ? Moi, ça me dit quelque chose. Maintenant, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Hein. Mais systématiquement, lorsqu'on faisait le trajet par l'autoroute pour arriver à Paris, je savais quand nous étions arrivés. Parce que juste avant une courbe, à Roissy, il y a un magnifique cèdre, et bon, il a été complété par d'autres, mais il y a vraiment un cèdre qui était tout à fait particulier, remarquable, et qui l'est toujours, hein, là, sur cette autoroute. Et il m'a toujours impressionné, peut-être parce que justement c'était, nous sommes arrivés sur Paris. Il n'y a que 3 ou 4 espèces de cèdres, en fait, dans le monde. Le cèdre est beaucoup mentionné dans l'Écriture. Le cèdre du Liban. Et lorsque la précision n'est pas donnée, apparemment, ça pourrait s'agir de pin. Mais, il est beaucoup mentionné. Et pour cause, le cèdre est l'un des arbres les plus majestueux. Ézéchiel, si nous lisons chapitre 31, versets 3 à 9, nous avons une description d'un royaume qui est comparé à un magnifique cèdre, c'est l'Assyrie. Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Extraordinaire description de ce royaume d'Assyrie avec le cèdre comme référence. Je remarque, je fais tout de suite remarquer ici, que si ce cèdre avait une telle beauté, une telle ampleur, c'est qu'il était planté près d'un courant d'eau, comme le dit aussi un psaume, et quand il s'agit du juste, planté près d'un courant d'eau, il se développe, il prend toute sa force et son épanouissement. Il y a un magnifique platane, donc, que j'ai déjà mentionné, ici tout près, devant le champ de Mars, qui est aussi, dont les racines plongent dans le fleuve, enfin la rivière à côté, la Dole, hein, qui n'est pas un fleuve très excellent, mais quand même, qui produit l'eau, et ce platane qui est donc planté à côté de ce canal, c'est vraiment magnifiquement développé, et il a une circonférence absolument énorme, c'est certainement un des plus gros de France. Voilà, parce que planté près d'un courant d'eau. Toujours se souvenir de cela, en fait. Le cèdre, donc, l'un des arbres les plus majestueux. Et puis également, le cèdre a servi à lambrisser la maison de l'Éternel et la maison de Salomon. Si nous prenons le livre des Rois au chapitre 5, 6 et 7, nous avons toute une description de l'édification de la maison de l'Éternel et ensuite du palais de Salomon. Et le cèdre y a une grande part. C'est d'ailleurs le premier bois que Salomon a commandé pour réaliser tout cela. Si nous lisons le chapitre 5, verset 6, il s'adresse à Hiram, qui habite au Liban, un roi du Liban. « Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper le bois comme les Sidoniens. » Donc, les lambris de cèdre étaient le top de la construction. Le cèdre est un bois noble, imputrescible, il devait être du plus bel effet, et il était tellement prisé, donc, que, eh bien, nous allons lire un passage qui, malheureusement, n'est pas très flatteur à ce moment-là pour l'homme. Mais je veux aussi lire dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 2, parce que, tout simplement, c'est David qui avait initié la construction du temple sous le motif suivant, 2 Samuel 7, verset 2, en s'adressant donc à Nathan. Il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Alors David ne supportait pas cette comparaison. Voilà, lui dans une maison de cèdre, l'arche de Dieu dans une tente. Voilà, non, c'est ce qui a été son motif pour bâtir une maison à l'Éternel. Et effectivement, cette maison donc a été bâtie en pierre de taille, bien sûr, mais avec le cèdre pour enjoliver tout l'intérieur. Mais malheureusement, si nous lisons Jérémie 22, 13 à 17, eh bien, nous avons une autre vision des choses. C'est que, là je le prends, c'est qu'il était tellement prisé que tout naturellement, il est associé à l'injustice d'une société qui ne lésinait pas pour augmenter son confort. 22, verset 13 à 17 de Jérémie. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel ? Voilà donc, malheureusement, c'est une constante dans la vie des sociétés. Là où le luxe augmente, l'injustice augmente aussi. Et si nous ne faisons que rechercher la beauté des lambris de chêne ou de hêtre ou de cèdre, parce que bien sûr toutes sortes de variantes, eh bien nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Hein, que vraiment que Dieu vous préserve de rechercher le luxe pour vous-même, mais qu'il vous donne de rechercher la beauté de sa maison. Car le prophète Agée reprend les croyants hein, à son époque déjà, en leur disant « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» La maison du Seigneur. Donc plutôt que de vous intéresser au bois de cèdre ou à toutes ces choses similaires par la beauté des effets recherchés, acceptez donc plutôt d'être vous-même ce bois de cèdre, coupé, travaillé, ajusté, pour embellir la maison de Dieu. Et pour cela, il vous faut juste, il y a une seule condition, eh bien, c'est que si on veut faire du lambris, il faut couper l'arbre, il faut que l'arbre meure. Eh bien, si vous voulez être employé pour être du beau lambris dans la maison de Dieu, il faut que vous soyez mort à vous-même. C'est la condition pour que le Seigneur puisse faire de vous ces choses magnifiques qui vont embellir sa maison. Oui, Dieu pourra faire quelque chose de beau avec vous à ce moment. Donc changez l'orientation de votre esprit. Non pas « Seigneur, donne-moi ces belles choses » qui finiront toutes par être arrachées, comme Zophonie dit « J'arracherai vos lambris de cèdre ». Mais « Seigneur, fais de moi un bon matériau ». D'ailleurs, pas tout à fait incompatible de comprendre que en travaillant ces matériaux et en les contemplant, eh bien, nous pouvons être aspirés à être nous-mêmes dans la maison du Seigneur de la même façon que ces beaux lambris sont dans les maisons. Je dirais, ô Dieu, comme prière, ne me fais pas passer à côté de ma vocation. Forme-moi pour ta gloire, comme le menuisier emploie le cèdre, le cyprès ou le chêne pour embellir la maison. Ça peut être compatible que vous ayez cette belle appréciation des lambris de cèdre et que ça vous donne vraiment le désir d'être vous-même formé de la même façon pour le Seigneur. Bon, je parle du cèdre mort ici avec le lambris, mais le cèdre vivant a aussi beaucoup à nous dire. Puisqu'il est beau, il est grand, il s'affermit et domine les autres arbres, De ce fait, il représente la gloire des royaumes humains parvenus à leur apogée. C'est le cas de la Syrie, décrite par Ézéchiel, nous avons lu. Arbre magnifique, arbre majestueux, arbre incomparable, jusqu'au jour où, parce que si nous lisons la suite, à partir du verset 10, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Voilà, bien sûr, cet arbre si beau devient le témoignage de la ruine des royaumes humains, qui s'élèvent pleins d'orgueil et d'autosuffisance. Témoignage des cœurs qui se remplissent d'orgueil. Écoutez comment résonnent les esprits imbus d'eux-mêmes dans Ésaïe chapitre 9, versets 7 à 9. L'arrogance qui apparaît dans ses paroles. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Caractéristique de l'arrogance et de l'esprit humain lorsqu'il se plaît à ce qu'il est lui-même et surtout qu'il s'élève contre la volonté de Dieu. Pourtant, le prophète avait déjà averti, chapitre 2, versets 11 à 17 d'Ésaïe, l'homme au regard hautain sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées. Et ainsi de suite, il y a un jour de l'Éternel contre toute cette élévation humaine, cet orgueil de l'homme qui ne rend pas gloire à son Créateur. Oui, les cèdres sont beaux. Toutefois, le monde est plein de cèdres qui seront abattus ou brûlés, comme le dit aussi Zacharie. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il renouvelle la face de la terre. Et il peut planter de nouveaux cèdres là où rien ne pousse. Il peut planter pour vous, à sa gloire, les plus beaux arbres, alors même que le désert vous entoure. C'est la promesse, toujours dans Ésaïe, au chapitre 41. Et versets 16 enfin la fin du verset 16 jusqu'à 20. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Oui, le Seigneur, si vous-même vous constatez ces situations dans votre vie de désert, où tout autour de vous devient aride, eh bien, le Seigneur peut aussi renouveler tout votre environnement et vous faire jouir de cette beauté et de cette gloire qu'il a mis dans sa création. Et surtout, il veut vous planter, vous, comme des cèdres dans sa maison. J'ai réservé le meilleur pour la fin, le psaume 92, versets 13 à 16. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Il y a deux fois le mot « juste » dans ce passage. Tout d'abord, il est question des justes, de vous-même, plantés dans la maison de l'Éternel, qui se développe comme le palmier ou le cèdre, deux arbres, voilà, qui ont particulièrement de la hauteur. Et puis, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Dans la maison du Seigneur, il y a les justes. Et ceux-là, ils s'élèvent, ils grandissent, ils croissent, ils ont de la vigueur pour faire connaître que l'Éternel est juste. Votre grandeur est de faire connaître la justice de Dieu. Dans sa maison, il y a aussi des oliviers, d'ailleurs. Le psaume 52, verset 10. Et moi, ça devrait venir tout de suite à votre esprit, pour ceux qui sont exercés aux Écritures. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je le louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence des fidèles. Ici, la notion qui est développée est celle de la bonté de Dieu. Et c'est l'olivier qui est pris en référence. Je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Alors, un palmier avec ses fruits magnifiques. Nous avions vu avec les enfants, le palmier, tout est positif avec le palmier. Tout est magnifique, le palmier dattier, en fait. Hein. Voilà, tout est bon dans le palmier. Il y a le palmier, il y a le cèdre, il y a l'olivier dans la maison de Dieu pour faire connaître la bonté de Dieu, pour faire connaître et refléter la justice de Dieu. Alors bien sûr, il y a plus de 30 versets qui proclament directement la justice de Dieu dans les Écritures. Et ce Dieu juste est celui qui vous justifie et qui vous rend juste pour que vous puissiez témoigner de la gloire de sa justice. Nous sommes appelés à recevoir, et vraiment recevez pour vous-même si ce n'est pas encore le cas, mais vivez pleinement la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme Pierre le dit, hein, qui a souffert, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Car Dieu était en, enfin je pars à partir du verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés, dit aussi Paul dans l'Épître aux Romains. Une foi qui est l'effet de la justice de Dieu, qui est reçue par la justice de Dieu. Dans 2 Pierre 1, son introduction, en fait, de la deuxième de épître de Pierre. Il s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par un seul acte de justice, la mort de Jésus sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et en Jésus-Christ, nous devenons justice de Dieu. Le Dieu juste a trouvé le juste moyen de nous dégager de notre péché, de notre injustice. Et par la foi en Jésus, étant réconciliés avec Dieu, nous devenons nous-mêmes justice de Dieu. Et alors, à partir de ce moment-là, nous grandissons, nous progressons, nous glorifions de mieux en mieux la justice de notre Seigneur. Nous rendons gloire à la justice de Dieu. Nous sommes devenus des justes. Nous avons été déclarés justes et cette justice s'imprime dans nos vies, dans nos cœurs, pour refléter la gloire de Dieu et sa propre justice, pour dire que l'Éternel est juste. Vous êtes plantés par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes plantés dans la maison de Dieu. En devenant participants de Christ, vous êtes faits justes, vous vous accroissez dans la justice, sans crainte de tomber dans l'orgueil à ce moment. Bien au contraire, vous faites de mieux en mieux connaître sa justice. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Voilà ce que vous manifesterez en étant planté comme un cèdre dans la maison du Seigneur. Amen.